Les passions de Camille avec Camille Chai.
Bonjour à tous, ici Camille Chai, vous écoutez Les passions de Camille. Et oui, parce qu'une de mes passions, c'est évidemment de rencontrer des gens et d'apprendre sur eux, de connaître leur histoire. Alors aujourd'hui, je reçois deux personnes qui font preuve d'efforts surhumains au quotidien. Ils ont tous les deux fait face à un événement plutôt marquant dans leur vie, si je peux dire ça comme ça. Et malgré leur lot de défis, les deux, ils ont entrepris chacun de gros projets, histoire de nous rappeler que malgré les difficultés, tout est possible. J'ai le plaisir de recevoir Marie-Claude Cusson et Maxime Drolet-Gauthier. Alors, ma première invitée a 35 ans, elle vient de Mirabel, elle est intervenante en délinquance sexuelle pour le gouvernement du Canada. Elle est aussi une maman heureuse et courageuse parce qu'elle a deux couples de jumeaux. Bienvenue, Marie-Claude Cusson.
Merci, Camille.
Ça me fait plaisir de t'entendre, Marie-Claude, parce que toi et moi, on se connaît depuis des années, encore une fois par l'entremise de l'Association des amputés de guerre.
Exact.
Donc, on peut dire qu'on est un peu comme des consoeurs, toi et moi.
Oui, ça ressemble à ça. Oui. Je ne sais pas, par contre, depuis combien de temps qu'on se connaît, mais je dirais plus de 20 ans au moins.
Oui, effectivement, parce que toi, tu fais partie de l'association depuis que tu as quel âge?
Depuis 92.
OK.
Donc, j'avais 7-8 ans.
7-8 ans, et voilà, exactement. Ouais. Puis la raison pour laquelle tu fais partie de l'Association des amputés de guerre à cet âge-là, c'est parce que, Marie-Claude, en 1991, tu as eu une méningite.
Exact.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que c'est, je veux dire, on entend parler de plein de choses, mais c'est quoi la méningite? Quels sont les premiers signes? Comment ça s'est passé pour toi?
Dans le fond, une méningite, c'est une infection du sang. Ça a commencé par un très gros mal de tête, une raideur à la nuque. Je faisais de la forte fièvre. Donc, mes parents se sont inquiétés, puis ils m'ont apporté à l'urgence. Et puis, ils ont bien fait parce que rapidement, mon état s'est vraiment détérioré. Là. J'ai eu une gangrène, donc le fait que j'avais plusieurs tissus qui étaient en train de nécroser. Là.
Ça s'est fait combien de temps après les premiers signes?
Ça s'est fait en une journée.
Ah oui, OK, quand même.
Oui. Oui, vraiment. C'était fulgurant. Ça a vraiment été rapide, là. Donc, c'est ça.
Et comment ça s'est passé par la suite? Tu as été à l'hôpital. Ils t'ont tout de suite prise en charge. Comment ça s'est passé?
Oui, en fait, ils m'ont emporté à l'hôpital du coin ici, qui ont rapidement constaté que mon état nécessitait des soins importants. Donc, ils m'ont transféré à l'hôpital à Sainte-Justine. Mm-hmm. C'est à ce moment-là qu'ils ont constaté que je faisais une méningite.
Et là, pour toi, t'avais 6-7 ans?
Oui, exact, j'avais 6 ans.
Il se passe quoi dans la tête d'une petite fille de 6 ans qui a la méningite du jour au lendemain?
En fait, à ce moment-là, j'étais inconsciente, donc j'étais dans le coma. À 6 ans, je pense qu'on s'imagine pas trop qu'est-ce qui se passe autour puis qu'est-ce qui s'en vient, là. C'était plus mes parents qui vivaient ça plus difficilement, là.
Et comment ils te le racontent? Est-ce que même, je veux dire, aujourd'hui, tu as 35 ans, est-ce que vous en reparlez encore aujourd'hui?
On en a reparlé à l'adolescence, on en a reparlé plus tard. Là. C'est sûr que les souvenirs que j'ai pendant mon hospitalisation, c'est tous des souvenirs que c'est mes parents qui m'ont raconté. Là. Je veux dire, j'ai vraiment aucun souvenir de tout ça. Puis je dirais qu'aujourd'hui, ça fait pas partie du sujet de discussion principal. Là.
Oui, bien sûr.
T'sais, on dirait qu'on a passé au travers ça. Là.
Oui, après toutes ces années, ça c'est...
Exact.
Il y a eu un deuil, une acceptation qui se sont faits. Mais tu t'es quand même... tu t'es réveillée, on t'avait amputé les deux jambes.
Oui.
Et 6 doigts.
Exact. Je me suis réveillée, j'étais un peu... j'avais beaucoup de douleurs, puis un coup qui m'ont réveillée, j'avais presque plus de douleurs là, à ce moment-là. Donc, j'étais bien, puis j'étais comme satisfaite, si on veut. Là. Ça m'a comme soulagée beaucoup. Là.
Oui.
Mais sur le moment, là, moi, j'étais une petite fille bien, bien positive. Fait que là, j'étais bravo, il n'y en aura plus de problème, ça va bien aller.
Incroyable.
Ouais, c'est ça.
J'imagine que tu as dû de te découvrir des forces. Tu les avais avant, mais d'être mise en fait devant ce fait accompli-là, de te faire amputer les deux jambes et ses doigts, c'est quand même. Tu avais une force qui était, j'ai envie de dire, surhumaine.
Ben merci. Mais j'étais une petite fille sportive, fonceuse d'avance, un peu tannante coquine. Donc, je n'avais dedans, puis j'avais une bonne tête de cochon, si on peut dire. Fait que je pense que ça m'a aidé aussi à passer au travers tout ça. Là.
Puis, j'imagine que tu t'es un petit peu renseignée, mais apparemment que le vaccin contre la méningite a été, si ça se dit comme ça, imposé, ou en tout cas, ça fait partie des vaccins de base pour les bébés et les enfants.
Exact.
Mais ça, ils ont instauré ce vaccin-là, 2 ans après ta méningite à toi?
J'ai pas souvenir exactement des dates, là, mais c'est pas mal à partir des années 90 que le vaccin pour la méningite a été instauré comme pour tous les enfants, pour le type de méningite que moi j'ai eu. C'est ça.
T'en penses quoi de ça? Parce que je veux dire, à quelques années près, t'aurais pu ne pas vivre ça.
Oui, mais en même temps, je veux dire, moi j'ai vraiment appris à vivre avec ça. Je veux dire, c'est pas si négatif pour moi, là. Je veux dire, ça fait de moi une personne différente, mais unique aussi j'ai comme jamais pensé, mettons, si le vaccin avait été inventé, comme imposé avant, tu sais, peut-être que je l'aurais pas eu, mais on le sait pas, là.
Voilà, aucun regret, ça sert à rien de vouloir revenir avant, quoi, revenir derrière.
Non, exact.
Comment ça s'est passé quand tu étais à l'école, au niveau des ta rentrée, les enfants, le regard des autres
À l'école primaire, là, j'ai vraiment été chanceuse parce que j'habitais dans un petit quartier. Donc, les enfants me connaissaient avant que j'aie ma maladie. Mm-hmm. Puis, dans le fond, ils avaient déjà été préparés que Marc-Claude revenait. Mais Marc-Claude, il manque des jambes. Et Marc-Claude a peut-être se promener en chaise roulante, tout ça. Mm-hmm. Puis, je dirais que les petits amis, tout ça, ont vraiment été très, très gentils. Là, je veux dire, ils voulaient tout pousser la chaise. Ils voulaient tout m'aider à transporter mes livres. C'est sûr qu'il y a eu peut-être deux petits garçons un peu plus tannants là, qui se permettaient de me traiter de certains noms, là, mais je veux dire, moi, ça m'a jamais vraiment affectée au primaire, là.
Est-ce qu'il y a des enfants?
Au secondaire, c'est une autre histoire.
Ah oui, vas-y, je suis curieuse de t'entendre.
au secondaire, je pense que la période de l'adolescence, c'est une période difficile pour tout le monde.
Oui.
Puis je pense que moi, je l'ai vécu aussi un petit peu difficilement au niveau de l'acceptation de mon corps qui changeait, mais c'est l'acceptation de mon corps qui était vraiment différent des autres. Là. Mais j'ai pas eu de moquerie, j'ai pas eu d'intimidation, quoi que ce soit. C'était plus comme moi, dans ma tête à moi, je me trouvais bien, bien différente, puis je me demandais si c'était pour avoir un conjoint, un amoureux, un conjoint, tout ça.
Ben oui.
Mais
est-ce que t'as eu finalement...
Finalement, ça s'est bien passé.
Mais est-ce que tu as eu une première histoire d'amour au secondaire?
Oui, j'ai eu quelques petites histoires d'amour.
Ah, OK, plus d'une.
Ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé malgré tout.
Je suis contente pour toi de l'entendre parce que c'est pour tout le monde, c'est pas pareil. Puis on se dit à l'adolescence, on parle souvent de la maturité. Donc on se dit, oui, les jeunes garçons... entre choisir une fille qui a tous ses membres ou une qui en a perdu, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune garçon à ce moment-là? Mais ça ne les a pas arrêtés. Je suis très contente d'entendre ça.
Oui, ça a bien été, là, quand même.
Puis pour avoir une idée, parce que toi, tu es intervenante en délinquance sexuelle pour le gouvernement du Canada, qu'est-ce qui t'a attirée dans ce métier-là?
En fait, je suis intervenante en délinquance générale, là, dont aussi en délinquance sexuelle.
Okay.
Moi, j'ai fait mes études en psychoéducation. Donc, moi, ce qui me tentait, c'était d'être intervenante auprès des gens qui vivent certaines difficultés.
Mm-hmm.
Puis j'ai réussi à entrer, à travailler pour le gouvernement comme intervenante. Donc, c'est ça. C'est quoi ta question au départ?
Mais non, en fait, c'était juste savoir qu'est-ce qui t'a interpellée là-dedans, mais j'entends bien, comme tu dis, tu voulais apporter un certain soutien, j'imagine, parce que voilà, tu savais de quoi tu parlais de par ton propre vécu.
Mm-hmm. Oui, je me sers beaucoup de mon histoire personnelle. Soit que je leur en parle, puis les gens aiment bien ça, que je sois transparente avec ça aussi, c'est-à-dire quel genre de difficultés que j'ai pu vivre, comment j'ai pu m'adapter, puis des fois, ils peuvent transposer ça avec leur histoire à eux. Donc, ça fait du sens.
Oui, parce qu'en fait, je pense qu'ils se sentent en terrain, ils sont en sécurité avec toi, justement parce que tu dégages. Mais j'imagine que oui, tu dois être une très, très bonne confidente pour eux.
Ben c'est un travail que j'aime faire là. C'était pas ma clientèle idéale choisie au départ, mais finalement je me suis trouvé que j'aime bien ça, aider des personnes en délinquance.
Ben c'est très intéressant. On va faire une petite pause puis on se retrouve après parce que on a encore des tonnes de choses à se dire, toi et moi.
Parfait, merci. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky.
Marie-Claude Cusson, on parlait juste avant la pause de ton travail. Et y a un petit détail qui est bien pour toi, qui est plutôt intéressant. Je dirais même peut-être un avantage en lien avec ton handicap, mais tu travailles 50% du temps au bureau et 50% du temps chez toi.
Mm-hmm. Oui, en ce moment, avec la pandémie, C'est ça, on a la chance de faire beaucoup de télétravail. Oui. C'est ça. Donc, moi, ça facilite beaucoup ma vie, autant la vie familiale que ma santé physique.
Oui, et parlons-en justement, parce que t'as quand même deux couples de jumeaux. C'est quand même, chaque fois qu'on entend parler de jumeaux, les gens font « Ah ouais, mais là, toi, c'est pas un, mais deux ».
Exact.
Deux couples.
Non, j'ai vraiment été chanceuse, un beau cadeau que la vie m'a fait d'être maman deux fois de jumeaux. Je dirais que ça n'a pas été toujours facile, mais là, ils grandissent. Mes plus vieux sont rendus à 8 ans, mm-hmm. puis mes plus jeunes viennent tout juste d'avoir 6 ans cette semaine.
Ah ouais, génial. Bon, on leur souhaite bonne fête en retard à ces petits.
Merci.
Mais là, parce qu'on se dit, bon, pour un couple qui a, si on peut dire ça, en tous ses membres, tous ses morceaux, mm-hmm. déjà, la question d'avoir des jumeaux, ben c'est quand même quelque chose d'assez intense. Là, dans ton mm-hmm. cas, avec ton conjoint, t'es mariée avec lui depuis des années.
Mm-hmm. Oui.
Comment vous avez... est-ce que vous en avez parlé ou ne serait-ce que... Est-ce que vous étiez au courant des deux premiers jumeaux?
En fait, on l'a appris à l'échographie. Là.
OK.
En fait, le premier couple de jumeaux, ça a quand même super bien été. Là. Je veux dire, on s'est bien adapté à cette situation-là. On a eu de l'aide aussi de la famille. Mm. Donc, on s'est relativement bien sortis. Là. C'était pas si pire la première fois.
Mais la deuxième,
fois,
elle?
C'est notre histoire. La deuxième, oui. En fait, à l'échographie, pour cette deuxième grossesse-là, ça nous a fait tout un choc, là, parce qu'on savait c'était quoi ne pas dormir pendant plusieurs mois, puis avoir deux petits bébés à s'occuper. Puis quand je suis retombée enceinte, dans le fond, mes plus vieux avaient à peine 2 ans. Là.
OK,
donc, c'était beaucoup de petits-enfants jeunes aux couches.
Mais comment tu
à prendre
fais?
Soin.
Mais les couches, par exemple, sachant que, bon, il te reste 4 doigts, comment tu te débrouilles concrètement?
Ben ça, en fait, au niveau de la motricité, au niveau de mes mains, tu sais, il n'y a pas vraiment de tu sais, je vois aucune différence.
T'es pas tant limité.
Non, c'est ça, non, ça va. Ce qui était vraiment plus difficile, c'est au niveau de déplacer les bébés. Comme exemple, monter l'escalier avec un bébé, ben c'est correct parce que je peux comme tenir sur la rampe, une main sur la rampe, mais c'est souvent avec des jumeaux, ça irait bien d'avoir comme un bébé dans chaque bras, mais c'est pour moi, c'est moins évident, là.
Mm-hmm. Puis vous avez fait, d'ailleurs, réadapter, vous avez un peu aménagé la maison en fonction de ça.
Oui, ben c'est ça, parce que les chambres étaient tous au deuxième étage. Donc, pour me faciliter la vie dans le jour, ben dans le fond, chaque enfant avait un parc aussi, comme au premier étage. Comme ça, on n'avait pas besoin de monter, descendre tout le temps avec mm-hmm. Les bébés, là, ce qui était vraiment plus difficile pour moi.
Hein. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es sentie débordée? L'avoir les enfants avec tes prothèses, juste ton rôle de maman au quotidien à la maison, est-ce que des fois, comme on dit, il nous manque de bras, est-ce que ça t'arrive?
Oui. Il me manque de jambes, moi, dans mon
cas. C'est ça.
En fait, oui, il y a vraiment eu plusieurs moments où je me suis sentie débordée, mais comme n'importe quelle maman d'un nouveau-né, c'est une nouvelle adaptation, mm-hmm. c'est beaucoup de fatigue, tout ça, fait que oui, c'était difficile, mais tu sais, je veux dire, je pense que les autres mamans aussi, on le vit tous un petit peu difficilement de part et d'autre.
Oui.
Ce qui était peut-être encore plus difficile, c'est quand justement que je suis retournée au travail avec la routine d'avoir des enfants à les porter à la garderie, aller au travail. Ça me faisait des assez grosses journées à devoir marcher. Ça, c'était plus difficile.
Heureusement que tu avais de l'aide, autant tu disais, de ta famille, mais tu as eu l'aide d'une auxiliaire familiale, d'une femme de ménage aussi.
Oui, exact. Il y avait le CLSC qui avait une auxiliaire familiale qui venait 3 heures par semaine. Là. Ça, c'était vraiment le bonheur. Là. Juste d'avoir 3 heures, d'avoir quelqu'un à qui jaser, puis qui pouvait plier un peu de linge, faire un petit coup de balai. S'occuper des bébés, puis souvent, tu sais, elle faisait juste comme s'occuper des bébés, puis moi, je pouvais aller faire une petite sieste.
Ah oui,
ça, c'était,
c'est précieux.
C'était vraiment génial. Oui, puis une femme de ménage, ben c'était pas un luxe.
Non, ça, je...
J'avais besoin.
T'as bien raison. Mm-hmm. Puis quand tu dis, bon, qu'il te manque plus de jambes qu'autre chose,
oui.
T'as deux prothèses, t'as pas de genoux, hein?
Oui, j'ai mes deux genoux.
Okay.
C'est amputé juste en dessous de mes genoux.
Juste en dessous. Est-ce que tu dois... Oui. Est-ce que tu es confortable dans tes prothèses?
Oui, moi, je suis vraiment confortable. J'ai des prothésistes vraiment géniaux, là, faut croire, parce que j'ai rarement des douleurs, là. C'est vraiment plus au niveau de la fatigue et de l'usure, là.
Puis la fatigue, tu dis d'ailleurs hein, que c'est un de tes plus gros enjeux ou de défis de terminer ta journée avec un minimum d'énergie, quoi.
Oui, exact. Des fois, j'en prends un peu trop sur mes épaules, là. Oui, c'est ça. Il faut que j'apprenne à respecter mon rythme là, pour être capable de faire mes journées au complet. Là.
Puis j'imagine que ben, justement, ton corps te donne pas le choix de prendre le temps de l'écouter.
Oui, c'est ça. Mais des fois, j'ai une petite tête de cochon puis je veux pas l'écouter, mais après ça, je le regrette le lendemain.
C'est quelque chose qu'on a en commun quand on a un handicap ou une limitation de cette sorte-là. On est confronté plus rapidement à nos limites, puis on a souvent tous une tête de cochon, hein, curieusement.
Eh bien, c'est peut-être pour ça justement qu'on réussit bien par après.
Oui, on lui doit quelque chose. Puis un des avantages que tu dois avoir, j'imagine, toi, tu perds pas de temps à te raser les jambes, par exemple.
Non, exact, avantage.
Je me souviens que tu m'avais donné un truc aussi pour te laver les pieds, parce que c'est des pieds en plastique.
Oui, la machine à pression.
Oui, carrément.
Donc, toi, enlève toutes les petites cochonneries.
Tu prends vraiment les grands moyens.
Oui.
Est-ce que tes enfants sont conscients de que leur maman, elle est handicapée et que des fois, tu as besoin d'aide?
Oui, j'ai des enfants vraiment, vraiment merveilleux. Là. Je veux dire, ils ont rapidement pris conscience que maman était différente des autres mamans. Puis je sais pas si c'est moi qui leur a transmis ça ou s'ils l'ont développé ou quoi que ce soit, mais c'est des enfants super empathiques. Puis tu sais, comme exemple, si j'ai du linge à monter au deuxième étage, ben c'est clair qu'il va y avoir un enfant qui va se porter volontaire. Là. Je dis est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à monter le panier en haut? Puis là, ils vont, tu sais, c'est sûr qu'il y en a un qui va y aller là. Donc, oui, ils savent que maman est différente. Oui, ils savent que maman, en revenant de l'école, elle ne peut pas aller courir avec eux au parc. Là, ils savent bien que maman, elle va peut-être s'asseoir, mais je vais quand même être là à 100% à les regarder et à les encourager. Là.
Oui.
Mais ils n'ont jamais vraiment dit quelque chose de négatif avec ça. Là.
Mais je pense que c'est une des choses dans ton enseignement, puis même avec ton conjoint, vous leur enseignez des notions uniques de par ton expérience de vie à toi, et ils sont gagnants, en fait, dans tout ça.
Oh oui, ça, je suis certaine qu'ils en ressortent gagnants, là, c'est ça.
Ah oui. Et je sais que tu as des petites histoires ou des vécus en lien avec tes places de stationnement. On est plusieurs à en vivre. et là, je t'entends. Mais ça ressemble à quoi pour toi? Parce que tu as ta vignette de stationnement pour personnes handicapées. Est-ce que ça se passe toujours bien?
Non, ça se passe pas toujours bien.
Pourquoi?
J'ai ma vignette. Ma vignette, là, moi, là, elle est très, très utile. Parce que si je fais trois magasins puis je suis stationnée à l'autre bout, ben après trois magasins, je suis fatiguée, épuisée, fait que j'ai mal aux jambes, je ne peux plus.
Hey.
Fait que il faudrait, moi, que j'utilise tout le temps le stationnement pour personnes à mobilité réduite. Mm-hmm. Mais c'est arrivé à plusieurs reprises que je me fais regarder, je me fais dire, ben voyons, t'es pas en chaise roulante, pourquoi tu utilises les stationnements, ça n'a pas d'allure. Puis ça, je veux dire, je me le fais dire d'un ton plus raide, là.
Voilà, OK.
Aïe, aïe, aïe. Oui, puis en fait, ça m'arrive assez souvent. Fait que, tu sais, souvent, j'ai comme juste pas le goût de me chicaner avec les gens. Mm-hmm. Fait que je me stationne pas aux places que je pourrais bénéficier là avec la vignette. Là.
Mais quel dommage! Je trouve ça décevant.
Je sais.
Mais parce que le fait que tu sois amputée, mais que tu aies tes genoux, c'est quand même, dans ta démarche avec tes prothèses, si tu portes un pantalon, par exemple, les gens vont pas nécessairement le remarquer.
Exact. Surtout l'hiver, là, les gens ils remarquent un peu moins. Puis c'est pourtant, ça serait l'hiver que j'aurais justement le plus besoin d'être le plus proche là pour éviter les plaques de glace, tout ça là. Je veux dire, c'est pas facile marcher avec deux vraies jambes sur de la neige,
non, bien sûr,
la glace, tout ça. Fait que avec deux prothèses, c'est encore moins facile là. Mais ouais, c'est ça. L'été, je me fais rarement achaler. Je me fais regarder comme tout le temps, là.
Oui.
Mais je me fais pas accoster, mettons, pour dire que j'ai pas d'affaires dans ces stationnements-là.
Parce qu'on s'entend, t'es complètement, t'as tous tes droits là, d'utiliser cette place-là.
Oui, oui, je sais. je dois me le rappeler souvent.
Oui. Et puis, t'es une maman, moi, je trouve ça très beau de te voir aller, puis il nous reste quelques minutes, mais je trouve ça important de mentionner le fait que t'es une grande sportive, mais t'as fait du patinage artistique pendant plusieurs années.
Oui. J'étais une sportive avant d'avoir la maladie, puis de me faire amputer.
Mm-hmm.
J'étais une petite fille assez active. Donc, moi, c'était vraiment important de continuer avec un sport qui me passionnait. Puis, j'ai pas choisi le plus facile. J'ai choisi le patinage artistique.
Incroyable.
Mais j'ai vraiment eu de l'aide autour de moi, là, des entraîneurs, des monitrices là, qui donnaient pour moi, là, puis qui étaient fiers de moi. Là, fait que ça m'a vraiment encouragée beaucoup, là.
C'est incroyable. Puis moi, je me souviens, hein, quand je t'ai connue, je voyais des vidéos de toi avec tes patins au bout de tes prothèses et tu patines très, très bien. Là, aujourd'hui, c'est toi qui, j'imagine, t'as moins de temps, évidemment, à y consacrer. Tu le consacres plus à tes enfants.
Exact.
Puis il y a une situation, on va terminer là-dessus, mais j'ai envie de te donner la parole parce qu'il y a une situation en ce moment qui, si je peux dire, t'enrage et que tu publies sur ton Facebook. De quoi il s'agit?
Ah, par rapport à l'autobus scolaire?
Oui.
Oui, non, c'est ça. En fait, depuis le début de l'année scolaire, mes enfants, quand ils débarquent, il y a des gens qui font pas l'arrêt. Ils font pas l'arrêt obligatoire. Puis non, c'est comme arrivé comme par hasard que je filmais les enfants qui débarquaient de l'autobus parce qu'on a adopté un nouveau chien. Fait que quand les enfants débarquent, le chien est vraiment heureux de les voir. Fait que je trouvais ça mignon, mais finalement, j'ai comme filmé quelques fautifs en faisant ça.
Parce que devant chez toi, tu es à Mirabel et il y a une route qui est très passante.
Oui, exactement. Puis c'est ça, les gens, ils font pas leur arrêt obligatoire, là. Donc, c'est ça.
C'est un message. C'est un message que tu passes à tout le monde, en fait, d'apprendre à respecter les fameux signaux lumineux.
Oui, parce qu'il peut y avoir un accident, puis il y a des enfants qui débarquent des autobus.
Et bien sûr.
Pourtant, c'est jaune, c'est gros. Il faudrait être plus vigilant.
Eh oui, mais Marc-Claude, le message est entendu.
Oui.
C'est déjà la fin de l'entrevue. Merci infiniment de nous avoir partagé ton quotidien d'une mère heureuse et accomplie.
Oui, bien merci beaucoup Camille.
Merci à toi. Et restez avec nous parce qu'après la pause, on rencontre Maxime Drolet-Gauthier. À tout de suite.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Et oui, ici Camille Chaille, je suis avec vous encore pour la prochaine demi-heure et cette fois-ci en compagnie de Maxime Drolet-Gauthier. Bonjour Maxime.
Salut, ça va bien?
Bien, merci toi.
Ben oui.
Maxime, t'es un entrepreneur, tu es un athlète, t'as créé la fondation NeuroConcept. Et on dit de toi que tu carbures au défi, ça c'est à 110%. T'es d'ailleurs très occupé en ce moment où on se parle.
Oui, c'est ça. Ben justement, je dirais que surtout dans les derniers temps par rapport justement à l'événement que je vais vous parler dans quelques instants, Montréal-Québec, pour la fondation, je dirais que les 4, 5, 6 derniers mois ont été très chargés. Donc oui, j'essaie tout le temps d'être occupé le plus possible. Dans le fond, ça, plus que d'autres projets, plus que tout t'investisses. Donc oui, je suis assez occupé au quotidien.
Et là, en ce moment, tu as une équipe de tournage qui est chez toi?
Oui, tu sais, dans le fond, aujourd'hui, j'avais un rendez-vous à physio 9 à 10. Après, j'avais une équipe de tournage qui était prévue de 11 à 1, mais c'est de 10h30 à 12h30, avec justement Ami Télé.
Oui.
Par la suite, j'ai une massothérapeute qui vient chez nous. Puis sinon, après, j'ai un rendez-vous à 4 heures. Donc, aujourd'hui, ça a changé back-à-back, non-stop. C'était assez, ouais.
Mais donc, on est chanceux de t'avoir à l'émission, là.
Oui, exactement. Mais tu sais, j'avais quand même prévu ça dans le temps. C'est juste par rapport au trauma, je me demandais si, tu sais, des fois, ça prend plus de temps. En fait, souvent, ça prend plus de temps.
Oui.
Donc, je me demandais si c'était possible. Mais j'ai fait en sorte que ça fonctionne.
Ben, c'est merveilleux. Puis moi, je suis contente de te parler parce que je suis contente d'apprendre à te connaître et que nos auditeurs aussi te connaissent parce que, Maxime, t'as 26 ans, bientôt 27 d'ailleurs.
Oui, le mois prochain. Ouais.
Et ben, tu habites à La Salle avec ton frère jumeau.
Exactement. Ouais.
Et moi,
et
je.
Mon chien.
Et ton chien. Oui,
très
ton
important.
Chien que tu aimes beaucoup.
Oui, vraiment.
Maxime, j'ai envie que tu nous racontes ben, ton histoire, ton événement un peu particulier parce que tu as eu un accident d'automobile en 2013.
Exactement. Dans le fond, c'est ça, j'avais. En fond, c'est deux mois avant ma fête de 20 ans. C'était le 17 août 2013. Dans le fond, je m'en allais avec des amis à Ottawa. Voir d'autres amis, et on a eu un accident d'auto sur la 417. C'est un assez gros accident de voiture. On a fait 8 tonneaux, on était 5 personnes, il y a 4 personnes sur 5 qui ont été éjectées. Et justement, à partir de là, il s'est découlé un énorme long parcours à l'hôpital, 13 mois en tout. Donc, c'est beaucoup de choses à apprendre. C'est dur aussi de voir tes proches qui le trouvent difficile, surtout ton frère jumeau. C'est une connexion assez particulière.
Ah oui.
Donc, c'est beaucoup d'avantages, beaucoup d'acceptation, mais tu sais, je veux dire, ça par la suite, c'est bon, ben, il est arrivé ça, puis tu sais, c'est irréversible d'une certaine manière, donc qu'est-ce que tu en fais? Donc, à partir de là, un long parcours, surtout puisque entre les oreilles, je pense que c'est là que le travail est important de se faire, parce que tu peux faire ce que tu veux dans la vie, peu importe la situation que tu es, c'est de trouver des alternatives et des nouvelles façons de faire les choses différemment.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça, il y a eu plusieurs trucs qui sont arrivés. J'ai eu un moment dans ma vie, j'ai eu une certaine pause dépressive, consommation,
ah oui,
que tu passes au travers. Ben, tu sais, moi, l'entraînement a toujours été quelque chose de très important. L'école, des trucs, tout ce qui est sérieux a tout le temps été très important, que j'ai jamais comme pas mis de temps là-dessus. Mais j'ai eu certaines embûches, certains trucs qui ont été en cours de route, mais que c'est ça, j'ai trouvé les outils pour me sortir de ces choses-là, puis
oui.
De faire quelque chose de positif de tout ça.
On est là pour en parler tout ça, parce que je trouve ça, je veux dire, t'as pas été à l'abri de ben, la dépression, la dépendance, on peut en reparler tout de suite après, mais juste, je reviens encore une fois à le moment de ton accident, tu t'es réveillé une semaine plus tard à l'hôpital, complètement paralysé.
Ouais, de la tête aux pieds, je bougeais pas mes bras ou à peine le haut de mes épaules. C'est sûr qu'à l'âge, t'es jeune à l'âge que j'avais, à 19 ans, c'est quand même un moment de ta vie où que tu vis tes expériences, tu commences ta vie,
t'sais,
t'es assez jeune encore, les amis, t'sais, les parties, t'sais. C'est vraiment un moment de ta vie où t'explores, on pourrait dire. Et fait que c'est sûr d'avoir un gros coup comme ça, puis de réaliser à quel point tu dépends des autres au début, à quel point que tout est comme difficile. Tu sais, de savoir justement que tout le monde faut qu'il pense à toi. Comme si tu t'en reviens quasiment à un petit enfant. Donc c'est sûr que c'est quand même difficile c'est dans la tête de t'imaginer ce que les autres pensent. Qu'est-ce qui m'énervait vraiment, c'est de dépendre des autres, surtout de ma famille. J'avais l'impression d'être un peu un fardeau pour eux, malgré que je sais qu'ils le faisaient avec cœur. J'ai vraiment une famille incroyable, parce que je pense que c'est un des points très importants dans toute cette réadaptation-là. Puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Sans eux autres, oublie, je serais vraiment, vraiment loin de ça. Donc, la famille a vraiment aidé. Les amis, j'ai super bons amis aussi. Puis c'est ça là. Je m'éloigne. J'oublie la question.
Non, mais aucun souci. Moi, c'est le plus on en sait plus sur toi, le mieux on se porte. Voilà, exactement. Mais puis tu me dis, bon, t'avais 19 ans. Et là, tu me parles de avoir peur d'être un fardeau pour ta famille, tout ça. Mais quelles ont été tes. Est-ce que tu te souviens des peurs que tu as eues à ce moment-là quand tu as pris conscience que tu étais tétraplégique? Dans la tête d'un jeune homme de 19 ans, quelles sont les premières choses auxquelles tu as pensé?
Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu sais, j'étais jeune, pas forcément la plus grande maturité du monde. Qu'est-ce qui me rendait heureux n'était pas nécessairement les choses les plus importantes de la vie, comme le côté sexuel. J'avais peur, moi, de deux choses. En particulier, jouer au hockey, c'était ma passion numéro un. J'avais peur de pouvoir pu jouer au hockey, ce qui est arrivé. Mais okay. C'est quelque chose qu'au début, je trouvais très, très difficile. Puis sinon, le côté relation amoureuse, j'avais peur de, tu sais, je me disais pourquoi une fille serait avec moi quand j'ai autant de limitations, quand il y a peut-être quelqu'un que, tu sais, qui est debout.
Comment ça s'est passé? À 19 ans, est-ce que tu as eu une copine quelques temps après? Ou j'imagine qu'il y avait une période d'adaptation parce que tu dis que ton corps a changé, tu as dû réaccepter ton nouveau corps.
Ben oui, ton corps, il t'écoute pas. Ton corps, il fait ce qu'il veut. En fait, moi, c'est ça, les deux premières années, je dirais que pas mal tout le monde qui a une blessure médulaire, que c'est vraiment un traumatisme pour tout le corps. Le corps réagit quand même spécialement pour certaines choses. Donc, moi, c'est vraiment le côté... au départ, quand, exemple, pour le côté urinaire, j'avais vraiment de la misère à me contrôler. Dès que j'avais envie d'aller aux toilettes, c'était comme trop tard, je me faisais pisser dessus. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment été... Ça a pris 2 ans. C'est vraiment comme trouver la bonne éducation pour tout régler ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, exemple, côté relation amoureuse, de dater une fille, que... Tu sais, moi, j'avais une copine à l'accident, mais ça n'a pas duré longtemps.
OK.
Puis là, par la suite, j'ai comme rencontré des personnes et tout, mais j'étais toujours hésitant par rapport justement à mes problèmes, qu'est-ce qui pourrait arriver.
Oui.
Puis il est arrivé plein d'affaires, mais tu sais, j'ai réalisé comme quoi, tu sais, les gens qui sont intéressés par moi, tu sais, je veux dire... les gens y acceptent, peu importe, là, puis je pense pas que c'est un problème pour certaines personnes, puis si c'est un problème pour certaines personnes, mais ça va être une expérience, tout ça, mais ce côté-là, en relation amoureuse, il y a un bon 2 ans où j'étais vraiment comme réticent, puis je me disais pourquoi une fille serait avec moi, hein, puis
oui.
J'étais toujours vraiment stressé quand je rencontrais quelqu'un, jusqu'à temps que je rencontre, je suis plus avec elle, mais j'ai passé 4 belles années avec une personne, une infirmière, qui venait de mon quartier, que j'ai rencontré à la fin de mon cégep, qui elle finissait son deck en infirmière. Puis okay. Je sais pas pour qu'est-ce que cette fille-là, en particulier, elle avait plus que les autres, parce que j'avais quand même rencontré plusieurs autres filles que, on dit que tout de suite dans ma tête, j'avais de la misère à aller vers le côté sérieux. Quand ça devenait sérieux, j'avais peur, puis là, j'abandonnais, mais en tout cas. Puis elle, c'est une infirmière. Fait qu'on dirait que je me suis dit, le côté à comprendre ces choses-là. Fait que je me suis vraiment laissé aller avec elle, puis on a fait plein de choses, elle m'a fait réaliser que tout le monde a droit à l'amour, on a voyagé, on a passé du bon temps. Ça s'est terminé malheureusement cette année en mars, mais j'en tire vraiment des bons souvenirs, et tu sais, je sais maintenant, tu sais, que mes pensées de « je peux pas être en couple » ne sont plus là, puis « je suis tout est possible », ça prend quelqu'un un peu plus compréhensible, patient, puis c'est ça, qui va t'accompagner dans toutes les difficultés, les imprévus de la vie.
Certainement, mais je trouve ça beau de t'entendre parler de « bon, t'as beau ne plus être avec elle en ce moment, mais t'as une belle reconnaissance de ton expérience, de ton parcours avec elle ». Puis j'aime l'aisance, Maxime, avec laquelle tu... t'abordes la sexualité, parce que ça reste quand même un sujet tabou. Puis je trouve ça intéressant de savoir, toi, ben, comment tu as vécu ça, parce que pour n'importe qui, de se mettre à nu devant une autre personne, c'est un moment intime où on dévoile notre corps. Mais toi, après un accident, c'est dur à s'imaginer, en fait.
Ouais. Ben, je peux en parler justement rapidement. Mais moi, justement, il y a quelque chose que j'avais beaucoup de misère, c'est justement mon corps. Je veux dire, j'étais un gars 6 pieds 2, 200 livres, j'étais tendu assez bâti, tu sais, je faisais attention à mon alimentation, j'étais en forme, tu sais, puis de perdre, tu sais, j'ai perdu un bon 50 livres en un mois, je veux dire, j'étais atrophié, je pouvais pas tant bouger au début, tu sais, ça là, c'est, moi, j'avais beaucoup de misère à enlever mon chandail, genre devant une personne, justement, pour exemple, à l'amour, whatever, c'est quelque chose que ça a été long, enlever mon chandail, tu sais, mais ça, c'est moi, tu sais, puis j'avais de la misère à accepter ce nouveau corps, surtout au début, tu sais, que ça a été long avant que je reprenne confiance par rapport à ça, puis ça, mon ex-copine, elle m'a aidé beaucoup pour ça aussi. Donc, oui, puis sinon, ben, la sexualité, mais, tu sais, les gens vont dire, tu peux pas faire grand-chose, whatever, mais, tu sais, quand t'aimes vraiment quelque chose, puis que tu tiens à quelque chose que ça reste dans ta vie, mais tu vas trouver des moyens pour, puis tu vas être créatif, puis tu sais, je veux dire, moi, ma sexualité, c'est quelque chose qui est important pour moi, puis je veux dire, c'est pas parce que je suis trop longue que ça sera le plus important, puis que je vais passer à côté. J'ai juste beaucoup d'adaptation, puis j'aime être créatif, puis c'est ça, là.
C'est merveilleux. C'est merveilleux de t'entendre dire ça, parce qu'il y en a, je pense, qui se privent aussi à cause
tout
de
à
ça.
Il y en a beaucoup que je connais, que On joue au rugby, justement. Fait que, j'ai beaucoup de gars que je côtoie. Puis il y a certaines personnes en particulier que ça, depuis leur accident, ils ont fait non. Ça fait 5, 6, 7. Puis ils disent pourquoi. Il y a encore la mentalité de pourquoi une fille voudrait être avec moi. Puis moi, j'essaie souvent de leur dire, de leur expliquer, puis qu'il y a des alternatives. Puis que je suis rendu que c'est même plus dans ma tête de genre que je suis inquiet que je peux trouver quelqu'un.
Oui.
Moi, dans ma tête, je sais que je mérite ça comme n'importe qui. Puis que, tu sais, au fil du temps, je vais trouver une personne qui va être correcte pour moi. Tu sais, genre, j'ai plus la mentalité de « Ah, moi, j'ai pas le droit à ça » ou « Pourquoi quelqu'un sera avec moi? » Tu sais, je pense même plus à ça. Là.
Magnifique,
c'est ça. C'est un long cheminement à la tête, par exemple. Tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain.
Ça, oui, ça, je te
mais
crois.
Mais ça prend des... Comme j'avais déjà parlé à ma psychologue dans le temps, quand j'avais peur, elle me disait tout le temps « Ça te prend quand même des expériences aussi. Fait qu'il faut que tu essayes. Tu sais, si tu n'essayes jamais... » c'est sûr que ça va arriver certaines fois que ça va moins aller bien ou que il va arriver certaines affaires, je vais pas un espace, ma jambe va tomber à côté du lit ou ça arrive des trucs comme ça, mais oui. Genre ça te prend quand même des expériences positives pour te donner une confiance pour pouvoir par la suite justement là, avoir confiance en toi puis de te laisser aller dans ces moments-là. Là.
Complètement. Ben écoute, ces belles paroles, on prend une petite pause de temps d'écouter d'une chanson et de réfléchir à ce que tu nous racontes, puis on poursuit tout de suite après.
C'est parfait.
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm, there's a killer on the road. Squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Thank you.
C'était Riders on the Storm de The Doors. Une chanson qui, je pense, doit avoir une certaine signification pour toi, Maxime Drolet-Gauthier. Est-ce que je me trompe?
Je vais être honnête avec toi. J'ai pas tant écouté la mais j'ai trouvé quand même le beat, tout ça, un peu comme Western, que j'écoute quand même. Mais je vais être honnête avec toi, j'ai pas vraiment écouté les paroles.
Écoute, aucun problème.
Je peux pas te confirmer.
Mais en fait, le lien que je fais avec ça, c'est que juste par le titre Riders on the Storm, y a rien qui t'arrête, mais t'as fait un événement, en fait, il y a quelques jours seulement.
Oui.
Montréal-Québec.
Exact.
Raconte-moi ça. Qu'est-ce que t'as fait?
C'était légendaire. Non, mais en fait, c'est ça. C'est que moi, je vois une clinique de physiothérapie dans le sud-ouest à Verdun. Et avec la propriétaire de cette place-là, on a parti une fondation en fin 2000. Ben, c'est comme décembre 2016. Donc, on produit 2017. Mm-hmm. Et après certains temps, dans le fond, elle, la propriétaire de cette clinique-là, était sur le board de la fondation. Puis ça faisait un conflit d'intérêts. Donc, elle a dû comme me laisser être président. Enfin, dans le fond, il n'y avait personne pour être en charge de cette fondation-là. Donc, moi, j'ai tout le temps voulu comme faire un petit impact. Si je peux avoir une certaine influence sur les autres, whatever, puis aider les gens, mais tu sais, je prendrais l'opportunité. Donc, c'est une bonne opportunité pour ça. Et justement, avec ça, à partir de 2018, j'avais dit que je me fixerais un objectif par année physique pour justement inciter les autres justement à se soit passer, se fixer des objectifs, être fier d'eux autres, et puis de montrer que moi, il y a 5 ans, je bougeais même pas mes bras, puis aujourd'hui, mais je suis capable de faire ci, puis ça. Donc au départ, c'était ça l'idée. Donc en 2018, j'ai fait un 10 km. L'année passée, en 2019, j'ai fait un marathon, donc 42 km.
Wow.
Et cette année, en fait, à chaque fois, dans le fond, la semaine, les deux semaines qui suivent ça, je suis comme, je ferai plus jamais rien. Pas je ferai plus jamais rien, mais je ferai pas une autre affaire aussi intense comme un marathon, whatever. Puis là, même pas deux semaines après, l'année passée, j'ai comme, je vais faire moi à Québec, moi. C'est ça.
Fait que, tu t'arrêtes jamais, venu... Maxime.
Non, fait que l'idée est venue comme ça, je dirais. Puis là, ensuite, c'est toute la préparation de penser à, comment je vais faire ça, c'est... Puis nous, on a décidé, après un certain temps, de le faire plus en biathlon, parce qu'initialement, on voulait le faire en 4 jours. À course, donc environ 75 à 80 km par jour, qui était quand même très long.
Oui.
Mais là, on s'est dit, seulement vu que, avec tout notre quotidien quand même chargé, on a dit peut-être 2 jours, ça serait mieux, fait qu'on pourrait le faire en biathlon. Donc la première journée, on a fait 212 km de vélo et la deuxième journée, 80 km de course pour se rendre de Verdun jusqu'à les Plaines d'Abraham à Québec.
Incroyable!
C'était vraiment une expérience vraiment que je veux pas. Tu sais, je veux dire, je vais m'en souvenir toute ma vie. First, je pensais jamais être capable de faire ça quasiment dans mes 5 ans. Même l'année passée, genre, j'aime ça comme fixer un objectif que je sais, genre, que je vais avoir peur puis je vais être stressé avant. Puis que, genre, comme je veux dire, je peux pas faire ça. Genre.
Oui.
C'est vraiment un truc que j'adore faire.
T'adores l'adrénaline.
Ouais, trouver des moyens d'y arriver. Puis, tu sais, je veux dire, l'événement, c'est pas bien passé. Là. Je veux dire, les 4 premières heures, la première heure, ça faisait 1h15 qu'on était parti. On était encore à Montréal. Puis j'ai comme manqué un tournant, puis j'ai chuté, puis je me suis genre ouvert l'œil.
Aïe, aïe.
Comme encore aujourd'hui, j'ai l'air burn noir, puis je saigne.
OK.
Quand même, j'ai besoin de comme des points de rapprochement, puis ça, je saignais vraiment beaucoup. Fait que là, d'ici là, on a perdu 30 minutes. Ça, c'est après 1h15. Puis là, après, j'ai eu des problèmes sur mon vélo pendant un bon 2-3 heures, qu'à toutes les 20 minutes, quasiment, il fallait arrêter pour faire des réparations parce qu'il y a des vis qui lâchaient.
Aïe, aïe.
On n'a jamais eu de problème avant, puis là, tout d'un coup, le jour même, il y a des affaires qui lâchent, qui n'allaient pas bien, à un moment donné, le frein, il allait mal, les changements de vitesse.
Est-ce que penses que c'est la vie qui te teste parce que t'as une force incroyable, à une capacité à rebondir sur les imprévus? Là, on dirait que c'est la vie t'a tout donné.
Ouais, mais je te dirais, les 4 premières heures, là, mon front était découragé un peu. Mais tu sais, moi, je sais que j'allais arrêter jusqu'à temps qu'on se rende à la destination. Mais c'est ça. Après 4 heures, on avait fait 40-50 km qui est vraiment pourri en bicycle. Je veux dire, nous autres, on voulait suivre 20 km/h.
Wow.
Donc après 4 heures, on était pour suivre rendu à 80, on était comme à 40. Là, après 4 heures, là, on venait de dépasser peut-être de Québec, de Montréal, de peut-être 10 ou 15 km. Là, on n'avançait pas parce qu'on arrêtait sans arrêt. Fait que c'est sûr que là, on était comme, mais ça continue même, ça
ouais,
va arriver le lendemain, c'est juste pour la partie du vélo. Donc,
mais t'as quand même réussi à le faire en 2 jours.
Ouais, c'est dans le fond, nous, la première journée, on s'avait prévu 14 heures. Donc, on est parti à 6 heures le matin, puis on s'avait dit 8 heures, On est arrivé le soir, on est arrivé à 8h15. Fait que, malgré toutes les imprévisions, on est arrivé 15 minutes en retard, on va dire, selon les prévisions. Puis le lendemain, on avait dit de 7h jusqu'à 7h, ou 7h jusqu'à 8h, fait que 12 à 13h. Finalement, on est parti à 8h, puis on est arrivé à 7. Fait qu'on l'a fait en 11h la deuxième journée.
Incroyable.
Fait que, malgré tous les imprévus qu'il y a eu aussi la deuxième journée, c'était vraiment motivé comme on veut finir, puis il n'y avait pas de... Les pauses étaient vraiment... Tout était planifié, la bouffe était planifiée. Genre, c'était comme...
T'avais ton père qui te suivait. Ton père te suivait en voiture aussi, donc t'étais bien protégé, entre guillemets, à ce niveau-là.
Ouais, non, exactement.
Puis le but de cet événement-là, Montréal-Québec, ben c'était pour ramasser des fonds pour la fondation.
Ouais, exactement, ça en premier lieu. Puis justement, on va faire une petite vidéo avec ça, un peu motivationnel, montrer que c'est pas battre en chaise roulante, que tu peux pas accomplir des choses. En fait, moi, initialement, c'est que, tu sais, ça fait 7 ans que je suis en chaise roulante, puis que je côtoie beaucoup de monde en chaise roulante, puis que je trouve que c'est un groupe de personnes il y a pas beaucoup de monde qui ont confiance en eux autres. Mm. C'est des gens qui prennent pas beaucoup de risques, des fois, qui vont aller plus conservateurs, qui vont pas trop sortir de chez eux parce qu'ils ont peur ce que les autres pensent d'eux, parce que il y a pas beaucoup d'endroits accessibles. Tout, il y a plein de facteurs. Fait que moi, c'est juste de montrer comme, let's go, là, c'est comme, tu peux te fixer un objectif, puis tu peux mettre du temps dedans, puis y parvenir autant comme fou que ça peut paraître. Puis, tu sais, ça peut s'affilier à d'autres choses. C'est pas obligé d'être physique. Ça peut être une carrière, ça peut être faire un enfant.
Ça peut être n'importe quoi. Mais ton message de motivation est très, très puissant. Je suis curieuse de savoir combien tu as réussi à ramasser pour ta fondation.
Donc là, en fait, l'objectif, c'est 15 000. Là, on est rendu à pas loin de 10 000. Et dans le fond, sinon la vidéo que tu sais, je veux dire le parcours pour aller là-bas, là, c'est vraiment magnifique. Là. Je sais pas si les gens ils font du bicycle qui nous écoutent, là, mais si vous prenez la route verte, là, c'est vraiment, vraiment beau. De Montréal à Québec, on suit le Saint-Laurent, puis c'est des belles maisons, des beaux paysages. Puis fait que la vidéo, là, je sens qu'elle va être vraiment écœurante. Puis ça, dans le fond, nous, on veut le garder. En fait, la vidéo va sortir la semaine prochaine, puis on veut rester le GoFundMe une autre semaine ouverte. Fait qu'on, d'après moi, on devrait être pas loin du 15 000, mais sinon, moi je m'avais dit 10 000, je vais être content. Donc,
certainement.
Déjà presque atteint. Fait que je suis bien content déjà des résultats.
Ouais. Avec raison. Puis ceux qui veulent voir la vidéo ou faire un don, où est-ce qu'ils peuvent aller, sur quel site?
Ben, dans le fond, pour un don, c'est sûr que là, si vous allez sur la Fondation Nouveau Concept, la page sur Facebook, vous allez trouver le lien assez rapidement. Sinon, moi aussi, sur ma page personnelle, Facebook, je mets souvent le lien. Sinon, sur Instagram, c'est dans ma bio, Maxime Relais-Gauthier. Vous allez voir le lien pour le GoFundMe que je vais laisser un autre 2 semaines. Sinon, la vidéo, mais je veux dire, vous allez la voir parce qu'on va la partager en masse.
le site de la clinique NeuroConcept, c'est www.neuro-concept.ca.
Ouais, eux autres, dans le fond, ça, c'est la clinique, dans le fond, où que je m'entraîne puis que je fais tous mes entraînements par rapport à ça, ceux qui me commanditent.
Okay.
Mais la fondation, c'est à part.
C'est autre chose.
Oui. Mais tu sais, je veux dire, c'est affilié, on pourrait dire, mais je veux dire, la fondation n'a pas tout internet encore parce que c'est quand même, tu sais, avant d'avoir un site internet, tout ça, faut quand même t'as de l'argent, faut avoir un fonds de roulement, puis ça a été long vraiment à avoir une bonne équipe. Tu sais, c'est dur d'impliquer des gens puis d'avoir autant de passion pour aider les gens que toi-même. Quand il n'y a comme pas d'argent en jeu, c'est dur d'embarquer des gens. T'sais, moi, je veux dire, ça fait 3 ans que je fais ça, puis je m'en fous, je veux pas une scène. Puis au contraire, ça m'en coûte de l'argent, mais c'est juste le fait qu'une personne me dise à cause de toi, j'ai commencé à m'entraîner, à cause de toi, je commence à. T'sais, moi, c'est ça qui fait ma paye, on pourrait dire.
T'es motivé, passionné, oui.
Ouais, mais d'avoir des gens qui sont comme toi, qui pensent comme toi, c'est dur à avoir. Puis il y a une fondation, mais tu sais, ça prend. Et moi, je suis bon, j'ai une grande bouche, on pourrait dire. Je peux faire tous les événements du monde. Je suis bon côté communication, mais tu sais, côté comptabilité, côté gestion, tu sais, moi, fait que ça te prend quand même une équipe complète. Fait que c'est ça qui était long à trouver, je te dirais. Parce que tu veux créer des événements, ça te prend une équipe. Tu peux pas faire ça tout seul tout le temps. À un moment donné, si tu peux ramasser et devenir gros comme enfant soleil ou whatever à la longue.
Tu commences petit pour devenir grand. D'ailleurs, je terminerai avec une anecdote que tu nous as partagée pour la dernière minute qui nous reste ensemble, Maxime. Mais pour prouver à quel point tout ce que tu nous dis, c'est en faisant des petits pas qu'on peut aller loin, tu racontais que tu as dû t'acheter des nouveaux gants pour rouler sur ton fauteuil. Puis ça a été un défi pour toi d'apprendre à pouvoir mettre tes gants tout seul.
Oui, c'est super aucun niaiseux que ça peut paraître.
Oui.
Mais tu sais, moi, c'est tout le temps ça, des petites victoires à chaque mois, de faire une petite affaire de plus. Tu sais, les gants, quand je les ai achetés, parce que tu sais, mais l'année passée, en fond, c'est un gros apprentissage. Je me suis magané les mains pour me préparer pour mon marathon, mais magané, là, je me suis brûlé, je sais pas combien de fois. Fait que là, j'ai appris à me taper. Puis là, tu sais, justement, pour faire l'entraînement, je mets des gants. Mais quand je les ai reçus par la poste, ces gants-là, j'étais comme, comment tu veux mettre ça? T'sais, ils sont tellement serrés, ils sont tellement petits, puis moi, je bouge pas mes doigts.
Oui.
Puis tu sais, j'étais comme, c'est impossible, genre, mais c'est con, mettre des gants. Mais genre, même pas deux mois plus tard, à force d'essayer, mais les gants, ça me prend 30 secondes de les mettre, tu sais.
Mais c'est magnifique.
C'est niaiseux, mais c'est juste que je veux dire, c'est ça.
Des petites victoires. On reste là-dessus. Les petites victoires sont aussi importantes que les grandes. Merci infiniment, Maxime Drolet-Gauthier, de nous avoir partagé ta vie colorée, ta vie intense. Puis je te souhaite d'aller loin. Puis bravo pour... je te lève encore une fois mon chapeau pour ton événement Montréal-Québec que tu as fait. J'ai hâte de voir ta vidéo, justement.
Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup.
Merci, Maxime. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à l'équipe aussi des Passions de Camille. Je remercie Mathieu Tessier, Claire Guérin, Sébastien Laliberté. Et n'oubliez pas, si vous voulez réécouter cette émission ou la partager avec des amis, je vous invite à aller sur le site canalm.vuesetvoix.com ou sur les plateformes de diffusion de balado. Je vous dis à tous à la semaine prochaine.